musique.
Caravanana maximum. Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du
sale, 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 sale.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le soleil.
Vive
les oreilles.
Libre.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs, dans le monde entier, à Liège, à Metz, radio-libertaire.net ou anarchiste.info. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuse. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à Tom Malmandier. Nous avons débuté l'émission avec un morceau enregistré en public d'un quartet inédit, composé de Tom Malmandier à la batterie, Louis Prado à la contrebasse, Basile Naudet et John Dickman au saxophone. Et à bon entendeur, le groupe cherche un label susceptible de sortir ce disque. Merci au Festival Météo et son directeur Mathieu Chenal. Merci à la filature à Mulhouse et Michel en particulier d'avoir mis un local à notre disposition pour réaliser cet entretien avec Tom Malmandier, dont je vous propose d'écouter le début.
Bonjour Tom.
Ben, bonjour Christophe.
Alors, ma première question ne va pas être très originale. Quelle a été ta formation musicale ?
Ma formation musicale, moi j'ai commencé la musique très tard et avec des trucs pas très intéressants, genre gratouiller une guitare et tout ça. Et j'ai eu, pour être tout à fait exact, adolescent j'ai commencé un peu chipoter avec des platines, à faire du scratch et tout ça. Puis j'ai vaguement joué dans des groupes plutôt hip-hop. Et vers, je sais pas, la vingtaine, je suis entré dans un groupe qui faisait du jazz et qui avait envie d'ouvrir et faire un peu jazz hip-hop comme ça. Et on a, du coup, j'ai intégré ça. C'était un peu mes premiers trucs vraiment dans la musique, je dirais. Et il se trouve que le batteur du groupe, qui lui, à côté, travaillait beaucoup le piano et de moins en moins sa batterie, a laissé sa batterie chez moi. Donc je me suis retrouvé avec une batterie chez moi, dans mon salon, et du temps pour jouer. Du coup, j'ai joué de plus en plus de batterie. Et voilà, donc au début beaucoup tout seul et puis sur des disques et puis avec des copains qui jouaient mieux que moi. Et voilà, ma formation était vachement autodidacte. J'ai pris un an de cours après avoir chipoté quelques temps. J'ai pris un an de cours privé avec un prof et puis je suis revenu à jouer voilà, avec des gens le plus possible. Et voilà. Et puis ensuite, j'ai fait des workshops ici au Festival Météo. Mmh. Donc le premier, c'était avec Édouard Perrault en 2009. Premier workshop. Puis j'en ai fait quelques autres après, Ok Young Lee, Mads Gustafsson, Sophie Agnel, le dernier, Jacques Di Donato. Et voilà. Donc en gros, ma formation, c'est à peu près ça.
Et alors, en quoi les workshops t'ont fait progresser? Qu'est-ce que tu as retenu? J'aimerais bien que tu m'expliques le principe de ces workshops et puis comment on progresse avec ça?
Je pense qu'il fait progresser avec le workshop, c'est un tout, c'est pas seulement le workshop en lui-même, mais ce qu'il y a, c'est quand on vient faire un workshop au Festival Météo, c'est qu'on est baigné dans tout, donc toute la journée on joue, on rencontre déjà plein de musiciens. Moi, là, une énorme partie des musiciens qui jouent encore aujourd'hui, c'est des gens que j'ai rencontrés durant des workshops ou des amis de gens que j'ai rencontrés au workshop. Donc, forcément, en jouant avec des gens, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis, on est baigné dedans. Donc, on arrive à 9h ou 9h30, je ne sais plus, le matin au workshop. Donc, on joue la matinée. À midi, il y a un concert à la chapelle. Et puis, on revient l'après-midi jouer. Et puis, le soir, il y a des concerts. Et en fait, du coup, pendant une semaine, c'est hyper intense. On est baigné à fond dedans. Mmh. Et moi, je me souviens que mon tout premier météo, j'ai vu des trucs dont j'avais aucune idée que ça puisse exister musicalement. Des trucs de noise, arch noise et tout ça. Des trucs vraiment, voilà, qui m'ont un peu bouleversé, retourné le cerveau. Et du coup, je dirais que ouais, c'est le fait d'être baigné autant dedans comme ça, entouré de gens qui ont les mêmes recherches, les mêmes goûts, les mêmes envies, tout ça. Et du coup, ça crée vachement d'émulation, de discussion sur les concerts qu'on a vus, de discussion après les impros qu'on fait ensemble au workshop. Et c'est tout ça qui, en fait, est hyper nourrissant. Mmh. Enfin, moi, je sais que musicalement, c'est un passage qui a changé, je dirais, changé ma vie, en tout cas ma vie de musicien, parce que, ouais, tous les gens que j'ai rencontrés ici, tous les concerts que j'ai vus, voilà, dans toute cette atmosphère, toutes les discussions qu'on a eues,
tout ça. Parce que plus jeune, tu écoutais du hip-hop, du rock peut-être, du jazz.
Oui, je suis passé par beaucoup de trucs, mais j'ai eu une adolescence plutôt hip-hop. Ouais. Puis j'ai toujours été assez curieux de beaucoup de choses, donc. Et assez curieux, notamment des trucs un peu qui sortaient des carcans. Donc même dans le hip-hop, j'aimais bien les mecs qui faisaient déjà des choses un peu plus bizarres et tout ça. Puis j'écoutais vachement de métal, début de l'âge adulte, comme ça, autour de 18-20 ans. J'écoutais pas mal de métal et puis tout des mélanges hip-hop, métal. Et puis forcément des trucs un peu noise qui émanaient de ça. Et je crois que mon entrée... Après, à la batterie, j'ai commencé à jouer vachement sur du jazz. Et du jazz assez classique, Charlie Parker, Coltrane, tout ça. Sur des disques, quoi. Et au milieu de tout ça, à un moment, je sais que c'est John Zorn, le premier truc qui est arrivé, qui m'a vraiment, du coup, plongé dans les musiques improvisées, expérimentales, et des trucs vraiment étranges, bizarres et tout ça.
Et c'est ça, en fait, que je voulais savoir. Comment étais-tu arrivé aux musiques bizarres ?
Ben, de curiosité, de toujours avoir envie de chercher autre chose et jamais en avoir assez, en fait, de toujours vouloir écouter plus de choses. Et John Zorn, ça a été vraiment le gros pilier, je dirais, de l'ouverture à « waouh, on peut vraiment faire tout ça en musique ». Et puis, avec ça, parallèlement, je dirais, ça va être plus ou moins en même temps, en tout cas un peu après... d'arriver à Météo, mon premier Météo, et de voir des trucs que j'aurais pas... que par moi-même, j'aurais mis beaucoup plus de temps à découvrir, je dirais. Ouais. Parce qu'il y a une programmation depuis 2009, et j'en ai fait pas mal depuis, qui est hyper éclectique, et qui était déjà avant, hein, mais moi j'ai connu en 2009, qui est hyper éclectique, donc qui va du free jazz à des trucs même jazz plus presque... jazz moderne, mais des trucs assez presque écrits, à des trucs noise, à des trucs minimalistes proches du contemporain. Enfin, du coup, j'ai dégusté pas mal de choses.
Alors, effectivement, on te voit à tous les concerts, pratiquement. Et je voudrais savoir... alors, je pense que tu as un attachement particulier au festival, tu nous l'as dit. Mais est-ce important pour toi de garder cette position de spectateur ?
Oui, complètement. Oui.
Pourquoi ? Il y a des musiciens qui s'isolent, au contraire, tu vois.
Moi, tant que je peux. Ce qui est difficile, c'est quand, par exemple, du coup, là, je vais jouer demain soir. Je sais que les concerts juste avant de jouer, c'est toujours plus difficile de pouvoir entrer dans la musique. Mais sinon, ça nourrit vachement. Et puis, j'aime la musique. Et en plus, c'est une musique que... La musique improvisée, l'improvisation et tout ça, c'est des musiques que j'écoute assez peu, en fait, en CD. J'écoute un peu, parce que les CD des copains, tout ça, enfin, y a plein de disques très bien, mais c'est une musique que je préfère mille fois écouter en live, quoi. Mmh. Avec tout ce qui se passe en live, les moments moins bien, les trucs qu'ils cherchent, et tout ça. Mmh. Et je trouve que c'est vraiment une musique qui se vit en live, et moi, je suis avant d'être musicien, j'étais un spectateur et un auditeur, du coup, j'ai envie de le rester. Mmh.
Alors, on retrouve chez les jeunes musiciens qui font des choses intéressantes, vous êtes nombreux, plusieurs formations, tu l'as évoqué tout à l'heure, se sont formées suite aux rencontres des stages à Mulhouse. Mm-hmm. Je voudrais savoir, est-ce que c'est le cas de Manolito ?
Manolito, oui, parce que j'ai connu Olivia ici. Ouais. Donc Olivia, c'est ma maman, je l'ai connue ici, alors je ne saurais plus te dire l'année, peut-être 2016 ou 2017, je ne sais plus. Mais on n'était pas dans le même stage. Elle faisait un stage, je pense, avec Clayton Thomas. Et à mon avis, c'était l'année où j'étais avec Okyung Lee ou Sophie Anne, je ne sais plus. Désolé, ma mémoire des dates est très mauvaise, mais je mélange tout. Mais Olivia, du coup, je l'ai connue ici. Et Thomas, je l'avais croisé ici. Il était aussi dans un autre stage, mais peut-être pas la même année. Il était venu avec toute la clique, Morgan, Basile et tout ça. D'ailleurs, Olivia, je sais qu'elle les a connus, Morgan aussi. Oui. Ils sont connus ici. Et nous, on avait commencé à jouer ensemble avec Olivia à Paris. On avait fait des sessions en duo. Et puis, on avait fait une session avec Thomas en trio. Et moi, c'est la première fois que je jouais avec Thomas. Et on se connaissait très peu encore. Et en fait, ça a tout de suite matché en trio. Et c'est là qu'est né Manolito.
D'accord. Alors, on ne va pas s'étendre sur Manolito, parce qu'on a reçu Olivia Semama et Thomas Zielinski. Voilà, donc on en a parlé. Mm-hmm. Je voudrais savoir, depuis, avez-vous le projet d'enregistrer un disque ?
Manolito, c'est en fait, on avait enregistré quelque chose, mais il y a déjà un petit temps. Ça avait traîné, le temps de mixer tout ça, et puis du coup, quand on avait eu le résultat final, voilà, on était un peu, on avait évolué dans nos têtes. Du coup, ça, on a quand même sorti ça en cassette à l'époque. Et c'est sur les Bandcamp de 2035 aussi, voilà. Truc, ça existe. Mais on aimerait bien, ça fait longtemps en fait, qu'on n'a plus joué ensemble. Ben, la dernière fois, c'était au Festival des Arrêts Libres.
Eh ben oui, j'allais justement je pense, ouais. Profiter de l'occasion pour vous remercier à nouveau.
Merci à toi
d'être venu.
C'était vraiment chouette.
Au Festival. Alors, il y a un autre groupe que tu fais avec Olivia Semama,
ouais.
Dont on peut parler, c'est Masked Pickle.
Masked Pickle, oui.
Masked Pickle.
Avec Olivia.
Alors, peux-tu nous présenter la formation ?
Donc, c'est avec Olivia, toujours à la basse électrique, et Clara Veil, de Strasbourg, qui est à la voix. C'est né aussi un peu... On avait fait une session ensemble. Clara était de passage à Paris, quand j'y étais. On avait fait une session, et pareil, ça avait matché, et on s'est dit, voilà, on est... De là, on a fait un concert, et puis, pareil, quand un truc continue à fonctionner, on a envie de continuer. Et ça, on a enregistré l'année passée. Et ça sort de mastering, c'est tout chaud, la semaine passée, je viens juste d'écouter, et donc, exclu, enfin, on a le produit là dans les mains, le disque, et dont on est assez content, et donc on va un peu essayer de chercher un petit label pour sortir ça, ce serait chouette. Je ne sais pas quand, dans les prochains mois, j'espère, ça prend toujours un peu de temps, mais dans les prochains mois, j'espère qu'on pourra... avoir un disque et puis rejouer aussi, j'espère, parce que là, du coup, bah, forcément, tous ces projets, vu que tout a été interrompu, ces projets-là aussi, donc ça fait longtemps qu'on n'a plus joué et on a hâte.
Eh ben, on vous écoute sur Radio Libertaire, Masked Pickle.
Je vous aime. Je vous vous êtes.
Alors Tom, on entend quand même que tu as un accent.
Bon, on n'avait jamais cette salle.
Je pense que tu es originaire de Belgique.
Je suis originaire de Belgique, originaire de Belgique et même de Liège. J'ai un accent qui vient carrément de Liège.
Alors on va parler de Liège, mais je ne sais pas où tu habites actuellement, tu as parlé de Paris.
Non, j'ai jamais habité à Paris. Ouais. Là, j'habite entre la Belgique et Metz, disons.
D'accord, très bien. Et alors, oui. Tu sais qu'on avait reçu Louis Frère qui nous avait parlé de l'œil collectif. Je veux savoir quels sont tes liens avec ce collectif. Est-ce que tu en as fait partie? Et peut-être tu peux nous présenter brièvement, nous rappeler les valeurs qui défend ce collectif.
Ben donc l'œil collectif, j'en ai fait partie, j'étais dans les membres fondateurs avec Louis et Clément de Chambre, Lionel Police à l'époque, enfin on était beaucoup, et puis des gens ont quitté, et puis d'autres sont entrés, enfin un peu comme l'histoire de tous les collectifs. Cette année, en fait c'est tout nouveau, cette année je m'en détache un peu pour des raisons purement temporelles, qui font que voilà, j'ai beaucoup d'autres activités, je suis beaucoup moins à Liège aussi. En Belgique, je suis plutôt à Bruxelles quand j'y suis. Ou alors, je suis en France, à Metz. Donc voilà, c'est là que sont mes principales activités. Du coup, voilà, c'est compliqué de gérer des choses sans être là et sans avoir vraiment le temps. Donc je m'en retire un peu, mais le collectif continue. Il y a toujours Louis, Clément, Marius, Henri. Il y a toute une équipe qui est là encore, qui tient les choses. Des nouveaux qui sont arrivés aussi, Pavel, Nico, des nouvelles énergies qui sont arrivées. Les valeurs, en fait, c'est parti d'un truc très simple, d'une bande de copains, copains musiciens qui jouaient tous dans voilà, des groupes où les effectifs se mélangeaient un peu, mais on était tous dans deux ou trois groupes et avec les uns les autres, tout ça. Et on s'est dit, ben, ensemble, on est plus fort, plutôt que de chacun dans son coin, alors qu'on est tous quand même copains et que c'est les mêmes gens qui sont dans les mêmes groupes. Ben, essayons d'avoir un peu une entité commune, quelque chose qui nous représente. Comme ça, quand on va jouer ailleurs, ben, on peut aussi parler du collectif, c'est-à-dire des autres groupes. Mais du coup, il y a un peu le nom du collectif qui rassemble tout ça. Donc, c'était un peu plutôt une question pratique comme ça. Et puis, petit à petit, on a commencé à organiser des événements. Puis il y a quelques lieux à Liège qui nous ont accueillis, qui nous ont proposé des choses, donné des cartes blanches, notamment l'Anvers qui nous a soutenus depuis très très tôt et qui continue à nous soutenir maintenant. Et donc voilà, ça a permis d'organiser des concerts, d'inviter des musiciens à jouer avec nous. Et voilà, donc ça crée tout ça.
Alors, Louis Frère nous avait parlé de ciné-concert organisé à l'Anvers, je crois d'ailleurs.
C'était pas à l'Anvers, c'est pas l'Anvers. Concert, c'était un autre lieu qui s'appelle le Hangar.
Ah, exactement. Ouais. Mais en tout cas, organisé par l'œil collectif. Et je voudrais savoir, toi, est-ce que c'est une forme qui t'intéresse? Et est-ce que tu as des idées sur le rapport entre image et musique?
Moi, c'est une forme qui m'intéresse énormément et sur lequel j'ai envie de continuer à chercher. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai relancé un de ces ciné-concerts qu'on avait fait, où il y avait notamment Xavier, il y avait Olivia même, qui était de passage à Liège ce jour-là, et d'autres gens de Liège, et on avait... c'était improvisé, toujours un peu préparé autour du film, c'était Golem, le film Golem. Et en fait, j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps l'enregistrement et tout, j'ai essayé de remonter sur les images, parce que c'est un truc que j'aimerais développer et refaire, jouer ce film-là, et puis d'autres, mais ce film-là, il y avait un truc qui marchait bien. Et après, le rapport plus largement que ça, donc les ciné-concerts joués sur des films, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais tout ce qui est rapport musique-image, c'est quelque chose qui m'intéresse vachement et qui est toujours des questionnements, parce que ça arrive souvent de voir des concerts où il y a de l'image un peu projetée derrière, mais qui n'a pas vraiment de lien, ou de voir un travail d'un mec qui fait des vidéos et qui crée de l'image, et qui met une bande sonore un peu aussi pour illustrer. Et en fait, c'est assez rare, les projets qui vraiment lient les deux. Enfin, en tout cas, j'en connais peu. Des trucs qui marchent vraiment, et tu sens que le truc est construit ensemble, que les deux éléments sont pensés. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me parle fort, oui. Et là, enfin, il y a un projet qui est dans les cartons, qui va, on espère, se lancer bientôt, avec Émilie. Je crie elle, donc accordéon, machine, platine, et avec qui je joue beaucoup, et Augustin Gimel, qui est un vidéaste, un créateur d'images, qui est sur Paris, que moi j'ai rencontré il y a quelques années à Liège. On a fait une performance ensemble, batterie, images, et là voilà, on réfléchit à un projet ensemble pour où vraiment du coup on réfléchirait comment l'un, enfin voilà, comment on a pu improviser ensemble du son, des images, et que ce soit vraiment trois éléments et pas de choses séparées. Mais c'est très compliqué en fait, en vrai, parce que même de notre même culturellement en fait, je pense qu'on on connaît les films, on connaît la musique, mais voilà.
Oui, notamment, on se permet pas de remonter un film, tu vois. Je sais pas si comment c'était pour le Golem, mais
de couper dedans, tu veux dire. Oui. Oui, c'est vrai. Mais j'ai découvert il y a pas très longtemps Peter Tcherkovsky, un Autrichien qui a déjà un certain âge maintenant, qui lui se permet complètement d'aller couper dans des pellicules, dans des trucs, et puis refait un travail sur les pellicules. Et en fait, j'en parle là parce qu'il y a un travail sonore aussi que je trouve vachement bien. On en trouve quelques-uns sur YouTube d'ailleurs, hein, mais tous ces trucs, il y a vraiment une ambiance sonore assez noise, assez dark comme ça, qui me parle assez aussi.
Alors, on reste dans l'ambiance liégeoise. J'ai vu dans la liste impressionnante des groupes dans lesquels tu joues, mais vraiment, que l'un d'entre eux, Ogive, avec l'excellent Pavel Tchikov, et il s'agit de musique composée.
Oui, et Pavel d'ailleurs.
Bah oui, par Pavel. Pavel Tchikov. Je voudrais savoir si tu joues beaucoup de musique composée, et est-ce que tu composes toi-même?
Alors, je joue assez peu de musique composée. Ce groupe-là, la musique composée par Pavel, où on est 10 musiciens, avec plusieurs multi-instrumentistes qui se partagent. Je suis le seul, en fait, qui joue que de la batterie et qui ne sait rien faire d'autre de mes doigts. Mais c'est le projet principal où je joue de la musique écrite. Après, il y a aussi Bobby de Nazareth, dont je pense qu'on va parler un peu plus tard. Ouais. Groupe de Louis Frère, qu'on a créé avec Louis Frère il y a quelques années, où c'est Louis qui compose, qui a été en stand-by, puis qui l'a repris. C'est les deux projets principaux où je joue de la musique vraiment écrite, avec forcément des parts d'improvisation, mais le gros de la musique est écrite. Et après, j'ai participé, ou de temps en temps, je participe à d'autres projets où voilà, il y a des parties un peu écrites, ou alors des projets plus ponctuels où il y a des choses écrites. Et je joue aussi avec une compagnie de danse où on a un spectacle, c'est du jeune public, et là, c'est mi-écrit, mi-improvisé, ce que je joue, moi, à la batterie.
Mais tu es quand même plus à l'aise, tu as des préférences pour la
musique
improvisée ?
J'ai une énorme préférence pour la musique improvisée, oui. Mais voilà, des projets comme ça où il y a une chouette écriture, une chouette patte de quelqu'un qui sait faire ça, parce que pour répondre au reste de ta question aussi avant, moi, je ne compose pas moi-même. D'accord. Non. J'ai vaguement essayé, mais je n'ai pas encore... je ne suis pas du tout là-dedans pour l'instant. Et puis, il y a des gens qui font ça très bien et moi, je fais ça pas bien. Et du coup, je... Mais ouais, me mettre au service de quelqu'un qui a réfléchi une musique, qui a essayé des choses et puis qui arrive avec un produit presque fini, parce qu'après, forcément, en travaillant en groupe, il y a des choses qui se mettent en place par le groupe. Mais ça me plaît, ouais. Après, c'est pas... Voilà, c'est aussi une question de temps. J'en ai que deux projets parce que, comme tu dis, j'ai pas mal de trucs et que j'ai pas le temps d'en faire plus. Et puis, voilà. Mais c'est pas quelque chose que je déteste.
Alors, tu as évoqué Bobby de Nazareth. On en avait parlé avec Louis Frère. Et j'aimerais savoir, dans quelle est l'évolution du groupe depuis qu'on a reçu Louis, et notamment puisque j'ai vu que Timothée Coste avait rejoint le groupe.
Donc Bobby Nazareth, c'est un de mes premiers, c'est mon plus vieux projet musical. Donc ça fait plus de 10 ans que ça a été créé, d'abord en trio, donc avec Louis et Sylvain Hannen, qui est un guitariste qui vit maintenant à Bruxelles. Puis un saxophoniste qui nous a rejoint, Olivier Klechtermans, qui après était aussi à Bruxelles et parti en France. On s'est retrouvé avec d'autres saxophonistes. Et puis le groupe a pas mal évolué comme ça. Il y a eu un autre répertoire où il y avait un slammer avec nous qui racontait l'histoire de Nazareth. Il y avait même des marionnettes sur scène. Il y a Xavier qui a fait partie du groupe à ce moment-là. Enfin, bref, ça a beaucoup évolué. Puis ça a été en stand-by pendant quelques temps pour diverses raisons. Louis étudiait à Bâle à ce moment-là et puis a déménagé à Dieppe. On avait tous d'autres projets, donc ça a été en stand-by, mais on n'a jamais oublié de reprendre ça un jour. D'accord. On en parlait beaucoup avec Louis, et puis le guitariste a préféré faire une pause de ce groupe-là. C'est aussi ce qui a fait que le groupe a fait une pause. Mais quand on a reparlé avec Louis de reprendre, lui, il était toujours pas dans le mood de reprendre. Et en fait, on discutait de ça. On était à une résidence de la VIF en Bourgogne. Donc la VIF, c'est un collectif dont fait partie Timothée Coste, Juliette Meyer et beaucoup d'autres gens qui étaient en Bourgogne. Et puis maintenant, la plupart sont à Paris. Mais ils ont toujours un endroit là en Bourgogne où ils font chaque année une résidence et un festival. Et il y avait, donc on a parlé avec Louis, Timothée, il y avait d'autres gens, et il y avait Ruben Tenenbaum aussi qui était là, le violoniste. Et voilà, très vite est née un peu autour de quelques bouteilles de vin l'idée de faire un Bobby à nous quatre. Et on a fait ça. D'accord. et on a fait, on a répété, enregistré un peu, je ne sais plus quand c'était. Excuse-moi. Et on a fait une petite tournée, c'était en février.
Oui. Juste avant
j'ai terminé à Paris. Juste avant, exactement, juste une semaine avant confinement.
Je pense que c'est le dernier concert que j'ai vu. Donc avec Timothée Coste à la guitare.
Et du coup, Timothée Coste est à la guitare, pas du tout trompette. Ruben est au violon et écrit dans un micro. Parce qu'il aime bien faire ça. Mais Timothée, du coup, est à la guitare. Parce que du coup, à cette fameuse soirée en Bourgogne, il nous a avoué que son premier instrument, c'était la guitare, et qu'il avait très fort envie de ressortir ça, et du coup, on a une formule Bobby où Timothée Coste surprend tout le monde et est à la guitare, et fait ça assez bien.
Oui, ouais, ouais, très bien. Alors, Escargot est une autre formation issue de cette mouvance liégeoise. Vous avez sorti un album, je crois.
Oui, on a un album.
Le groupe est-il toujours en activité? Et peut-être aussi, présente-nous les musiciens. Tu as cité le nom de Xavier à plusieurs reprises.
Oui, donc il y a Xavier Fertin, clarinettiste, qui donc fait partie aussi d'Escargot. Il y a Camille Emaille, percussionniste, et Timothée Coste était dans la formation de base, et puis c'est aussi maintenant on joue en quartet avec Camille, Louis et Xavier. Et en fait, c'est né, oui, c'est un peu cette mouvance liégeoise, mais ce moment où c'est aussi en fait un truc très qui est un peu né à Mulhouse, parce que moi, Xavier, je l'ai connu à un workshop avec Jacques Di Donato. On s'est connus là. On s'est revus l'année d'après où Camille était là et Louis était là. Donc, on s'est connus tous ensemble. Et en fait, Camille et Xavier étaient les grandes, enfin, déjà de super amis, étaient à Strasbourg les deux. Et nous, avec Louis, on avait déjà plein de projets ensemble et encore envie d'en faire d'autres à Liège. Et du coup, ça s'est créé comme ça. D'ailleurs, ça s'est créé autour d'une session qu'on a fait au conservatoire de Mulhouse, ici. Et ensuite, Camille partait au Canada, au Québec, et avait un studio à disposition là-bas. Et est née cette idée d'en fait qu'on la rejoigne et qu'on enregistre. On avait une semaine en studio pour enregistrer, et c'est là qu'est née Escargot. Donc on a fait quelques concerts là-bas et une semaine d'enregistrement, enfin un peu moins qu'une semaine d'enregistrement. Et c'est de là qu'est né le premier disque qui s'appelle Dart Love, qui est sorti il y a 2 ans peut-être.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres. Nous venons d'écouter Snail Destroyer, extrait de l'album Dart Love de Escargot. On poursuit l'entretien avec Tom Malmandier. Comment s'est produite la rencontre avec Emily Schkriel? Je ne sais pas si je prononce bien.
Schkriel, ouais.
Schkriel.
Emily Schkriel.
Avec laquelle tu collabores en duo.
Oui. En duo, et en fait, on s'est rencontrés pendant la création du quartet Nuit, qui va donc jouer demain. Oui, on vous écouterait l'émission, c'était pas demain, mais qui joue au Festival Météo. Ouais. Et le groupe monté par Stéphane Clore. Et en fait, on se connaissait pas avant avec Émilie, mais Stéphane connaissait tous les membres. Et il avait rencontré Émilie à un concert à Strasbourg. Et avec Stéphane, on se connaît depuis quelques années maintenant. Et du coup, il a créé ce groupe. Et on s'est rencontrés là avec Émilie. Donc, première résidence de 3-4 jours. Et ben voilà, il y avait un truc, il y a une vraie amitié qui est née. Et du coup, on s'est revus parce qu'elle habite à Metz et moi à Liège. C'est pas si loin, en fait. La France, ça paraît toujours loin quand on est belge, mais en fait, c'est pas si loin. Et donc, on s'est revus et on a commencé naturellement à jouer en duo. Et en fait, il y avait aussi un truc qui marchait vraiment bien dans le jeu en duo. Un jeu plus nerveux, plus nerveux, avec plus de dynamique que ce qu'on explore dans Nuit. Et voilà, on a eu envie d'approfondir ça et de continuer à jouer. Et puis, depuis, en fait, du coup, ça, c'était il y a un peu plus d'un an. Ça devait être, ouais, au printemps 2019, du coup. Et depuis, en fait, on n'arrête pas de... Enfin, on trouve vraiment beaucoup d'affinités. Musical et pas que, avec Émilie. Et on n'arrête pas d'avoir des nouveaux projets qui nous viennent, beaucoup en duo, et puis d'autres aussi. Et voilà, il y a des chouettes choses qui se mettent en place et qui arrivent, on espère.
Alors, Émilie joue de l'accordéon, et tu as dit aussi de l'électronique.
Oui, et en fait, on a du coup ce duo Les Marquises, où elle joue accordéon et platine.
Ouais.
Donc un peu de scratch, tout ça. Et en fait, on explore dans d'autres duos où elle est vraiment à l'électronique plus.
Ah oui, mais alors, c'est ça, éclaire-moi. J'ai compris qu'il y avait deux duos différents sur ton site, ouais. Au moins, avec Émilie, Les Amants et Les Marquises. Et je voulais savoir la différence entre les deux.
Alors, Les Marquises, c'est vraiment un duo d'improvisation libre où elle est. Donc moi, je reste à la batterie, ça ne change pas. Encore une fois, je ne sais faire que ça. Mais elle est dans Les Marquises, accordéon et platine.
Ouais.
Et alors, elle passe d'un à l'autre, mais sans que ce soit défini, mais elle a les deux instruments. Mais dans sa manière de les approcher, en fait, il y a un truc assez semblable dans la dynamique. Donc ça marche assez bien, je trouve. Et alors, Les Amants, ça, c'est un projet plus électrique,
ouais.
Plus fort qu'est... plus noise et plus une orientation un peu breakcore électronique plus par là. Donc avec plus de un peu du beat, des rythmes, c'est plus pas carré parce que quand même ça part un peu en vrille, mais il y a plus de beat, de rythmique et tout ça.
Et alors est-ce que c'est composé? Je me suis demandé en écoutant Les Amants.
C'est pas composé, mais on travaille. C'est pas composé, par contre, on travaille vraiment avec cette idée d'avoir de la pulse et d'avoir du beat et tout ça, mais rien de ce qui sort et non, rien n'est composé. Non. D'accord.
Ouais. Alors, il y a sur Internet une série de vidéos avec les Marquises intitulée Presqu'île. Je voudrais savoir de quoi s'agit-il.
Alors, ouais, on peut dire que c'est les Marquises, mais c'est encore autre chose. En fait, c'est né. Du coup, j'ai passé le confinement à Metz, chez elle. En fait, elle vit à Sichazel, qui est un petit village juste à côté de Metz. Et du coup, le confinement, comme on le sait tous, on pouvait sortir une heure par jour avec attestation, tout ça. C'est un petit village, mais il y avait quand même pas mal de police qui tourne parce que, du coup, les gens de Metz, ils viennent là-bas pour se promener et tout ça. Donc, on voyait quand même souvent les policiers. Donc, on était quand même... on ne pouvait pas non plus faire n'importe quoi. Mais on avait marre de jouer juste à l'intérieur. Il faisait beau, on avait envie de sortir. Et du coup, on a trouvé... Elle a les deux petits accordéons. Enfin, vous pouvez voir dans les vidéos, si vous cherchez Presqu'île et nos noms sur YouTube, ça se trouve facilement. Elle a deux petits accordéons qui tiennent dans un sac à dos. Et moi, j'ai une petite caisse claire qui tient aussi dans un sac à dos avec mes objets. Du coup, hop, on prenait ça et on partait en balade. On avait repéré un peu déjà dans les balades des lieux où on avait envie de jouer, des lieux où il y a un environnement sonore et tout ça. On avait envie de jouer là et du coup, on a été jouer là. Et puis, en fait, c'est par hasard que j'avais mon téléphone et que j'ai filmé la première et qu'on a enregistré. Et en fait, on aimait beaucoup le rendu que ça donnait, l'image comme ça. Et puis, on en a fait d'autres qu'on a aussi filmé, enregistré et on a commencé à en avoir quelques-unes. Et du coup, on s'est dit, on va les publier. Mais il n'y avait pas d'autre idée vraiment à la base. Et puis, après le confinement, post-confinement, tout ça, on en a fait en Belgique, on en a fait à la mer du Nord, on en a fait en Auvergne, en vacances. Et on a eu, il y a 2 semaines, là, du coup, donc mi-août, entre le 10 et le 16 août, on a eu, invité par le Festival Météo, Mathieu, on a eu une semaine de résidence à Mulhouse, où on a pu avoir du temps pour explorer des lieux, trouver des lieux. L'idée, c'était de faire des vidéos, comme on fait toujours, et le vendredi et le samedi, de faire en live aussi. C'était la première fois, du coup, qu'on transposait ça, ce concept en live. Et c'était assez cool comme expérience, enfin, vachement cool même comme expérience. On a joué au marché, on a joué sur les berges, on a joué devant un brocanteur. Et voilà, il y a des vidéos courtes, il y en a qui sont sorties, il y en a qui vont arriver dans les semaines qui viennent aussi... Et on a pas mal de projets derrière la tête aussi avec ce petit dispositif assez simple et facilement transportable.
Thank you.
C'était Au fond d'une tisane par les Marquises, duo Tom Malmandier et Émilie Scrielli. Et on poursuit avec l'évocation de la formation Nuit.
Tom, peux-tu nous présenter les membres de la formation Nuit et nous dire comment est né ce... nous redire, parce que tu l'as un peu évoqué, comment est né ce quartet?
Mais du coup, comme je l'ai dit, Nuit, c'est sur une idée en fait, de Stéphane Clore, contrebassiste, que moi je connais depuis quelques années. Maintenant, on s'est connus, je crois, à Mulhouse, mais on s'est recroisés à beaucoup d'endroits. On a joué ensemble plusieurs fois, dans diverses formations, enfin, des sessions et tout ça. Et un jour, il passait en Belgique pour il était en tournée en solo. Et on s'est vu, concert aux ateliers Close. Et là, il m'a dit, en fait, il allait à Lille, chez Thomas Coquelet, pour travailler quelques trucs. Et il m'a dit qu'au fond de la tête, ça lui trottait à Thomas Coquelet d'ajouter moi à la batterie, de faire un trio. Et un peu plus tard, il nous a envoyé un mail à Thomas et à moi en disant, en fait, il avait rencontré Émilie entre-temps, à un concert. Il avait aussi beaucoup aimé son approche à l'accordéon, qui est vraiment
particulière.
Que moi, j'avais jamais entendu quelqu'un jouer de l'accordéon comme ça. Et il s'est dit, ah, ça, dans l'idée qui se faisait de ce groupe, qui s'appelait pas encore Nuit, forcément, il se disait qu'en quartet avec elle, ça pourrait vraiment être un truc. Et du coup, on a calé une résidence, printemps 2019, ça devait être en mars, je crois, à Vesserlin, vraiment un chouette lieu pour des résidences et tout ça, à Vesserlin, pas loin de Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Et du coup, voilà, première résidence de 4 jours, c'est là que j'ai rencontré Émilie, du coup. Il y avait Thomas que je connaissais un petit peu aussi. Le groupe est né comme ça. Et en octobre, on a fait une petite tournée, quelques concerts qu'on a enchaînés, Lille, Liège,
Paris,
Metz, Paris. Paris, les Sonifères, on terminait avec Paris, ça. Et Strasbourg.
Vous avez vu au Sonifère.
Ouais, on a joué au Sonifère.
Ouais.
Pas de souci. Et du coup, voilà, les choses ont continué et on se retrouve à jouer cette année au festival Météo à Mulhouse avec un petit changement de line-up parce qu'entre-temps, on ne va pas entrer dans les détails, mais Thomas avait sans doute mieux à faire et... Du coup, on le remplace par Armand Le Sec, qu'on a justement rencontré au Sonifère, qui s'occupait du son, enfin, qui était ingé son, et s'occupait aussi du dispositif sonore, donc de la spatialisation, au Sonifère. Ouais. Et ça a bien collé, en fait, dans le travail et puis humainement. Il est venu nous revoir quand on a joué plus tard à Strasbourg. Et on est resté en contact, et du coup, on a tout de suite pensé à lui pour jouer ici, au festival.
Alors, quelles sont, brièvement, peut-être, les idées musicales du groupe? Parce que je pense que... j'ai repéré qu'il y avait des boucles, des répétitions. Mm-hmm. Comment vous fonctionnez? Est-ce qu'il y a une direction, un plan, une structure prédéterminée? Ou comment ça se passe? Où vous voulez aller aussi?
Ça reste improvisé, donc on n'a pas de forme globale qui est déterminée à l'avance. Par contre, on a... En fait, ça s'est fait naturellement. Donc, les premières sessions qu'on a fait dans la première résidence, on avait vraiment un truc qui nous revenait de travail sur la persistance, sur les boucles, sur l'étirement en fait du temps, mais l'étirement des matières, de tenir les matières, d'amener quelque chose dans la longueur, comme ça, plutôt que d'avoir des musiques très dynamiques avec beaucoup de changements. Là, on était vraiment dans des choses plus, je dirais, contemplative, qui s'étirait. Et c'est ce qu'on a creusé. Après 2 jours, on s'est rendu compte de ça, que c'est quelque chose qui revenait, qui nous plaisait à tous. Et du coup, c'est ce qu'on a creusé, et c'est ce qu'on creuse depuis, qu'on continue à creuser, de vraiment... Oui, Stéphane aime beaucoup ce terme de persistance. C'est vrai que ça marche bien pour ça, c'est de, d'étirer la forme, plutôt que... Donc là, c'est pas défini, mais de... On a une matière et de l'étirer plutôt que d'abandonner, zapper, passer à autre chose. Ben voir jusqu'où on peut l'emmener et voir comment elle se transforme et elle va elle-même nous emmener ailleurs. Donc ça, c'est un peu l'idée globale. Du coup, ça donne on est dans une sorte de minimalisme avec quand même une certaine densité parce que on est 3 instruments acoustiques et on aime bien quand même remplir, mais dans des volumes sonores qui restent assez ténus. Peut dire. Et alors, on aime beaucoup aussi ce mélange avec l'électronique qui récupère le son des trois instruments acoustiques et le réutilise, le remélange. Et du coup, on essaie vraiment de développer ce son électro-acoustique comme ça. Voilà. Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs, dans le monde, radio-libertaire.net ou anarchiste.info. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui au batteur Tom Malmandier. Nous venons d'écouter un extrait de l'album Latitude du groupe Nuit qui vient de sortir le 8 janvier dernier et que vous pouvez vous précipiter de commander au label ESEM, E-E-U-X, plus loin SEM, S-A-E-M, label ESEM dont il va être question maintenant.
Alors Tom, peux-tu nous dire quelle fut votre motivation avec Émilie Scriel pour créer cette année, je crois, le label ESEM? Tu me dis encore une fois si je prononce mal.
ESEM, c'est très bien prononcé. La motivation, en fait, c'est assez simple, c'est que on avait enregistré avec les Marquises en octobre, je crois, en studio et tout, et on avait, en fait, même pendant l'enregistrement, on s'était dit, voilà, la situation du disque, on sait tous comment c'est compliqué, et en fait, on s'est dit assez vite, voilà, on avait envie d'enregistrer, d'avoir un bel album. Et du coup, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on en fait après? Comment est-ce qu'on partage ça? Alors, j'ai déjà fait pour plusieurs autres projets, de chercher pendant des mois des labels, trouver très difficilement ou ne pas trouver. Et du coup, en fait, on s'est dit très vite, est-ce qu'on ne sortirait pas nous-mêmes? Voilà. Mais on avait quand même envie de le sortir en CD, d'avoir un objet physique.
Oui.
Moi, j'aime bien... même si c'est qu'un CD, que c'est une rondelle plastique, mais j'aime bien avoir une belle pochette, un truc un peu réfléchi comme ça. Et du coup, on s'est dit, on va le sortir nous-mêmes. Et c'est de là qu'est né, avec, au fur et à mesure des jours, des semaines, quitte à sortir nous-mêmes, montons une petite structure, qui juste donnait un nom à une structure et quelque chose qui nous représente, nous, et tout ça. Et donc, très vite aussi, il y avait l'idée, Émilie, elle fait pas mal de dessins, des empreintes, en fait, elle fait des empreintes d'objets sur papier carbone, et donc, que moi j'adore, je trouve ça vraiment très très beau. Et donc très vite aussi, c'était l'idée de gérer nos visuels, d'avoir des visuels dans l'idée qu'on sort plusieurs disques, un visuel qu'on puisse reconnaître tout de suite, et du coup d'utiliser ses dessins pour ça. Mmh. Et donc le premier, Les Marquises, de notre duo, est sorti, avec un dessin à elle, et ensuite, il y a eu ce quartet qu'on a fait avec Clara, Annie Leraslan et Fred Friss. Que pareil aussi, très vite, on s'est dit avec Clara, on pourrait le sortir sur ESEM. Alors qu'à la base, on n'avait pas fait ESEM pour sortir plein de disques. C'était juste, on voulait sortir nos productions et tout. Pas non plus se lancer dans devenir patron de label et de perdre plein d'argent à sortir plein de disques. C'est plus pour que nos productions, elles puissent exister quelque part avec tout ça.
Alors justement, c'est votre seconde réalisation, ce quartet avec Clara Veil, Anil Eraslan et Fred Friff. Comment s'est faite ta connexion avec ce monument désormais des musiques singulières?
Eh bien, la connexion, en fait, c'est Clara qui a étudié avec lui à Bâle.
Ah ouais.
Et donc, elle a étudié avec lui pendant 2 ans, c'est un master là-bas. Et après, elle a eu l'occasion de jouer avec lui à New York. Ils ont fait un trio, lui et. IQM Mori.
Ah, très bien, ouais.
Et en fait, à ce moment-là, à New York, Fred, il avait bien aimé, et ils ont discuté, et ils se sont dit, enfin, Fred était tout à fait partant de recollaborer avec elle un jour. Et moi, j'avais connu Clara, je ne sais plus comment exactement, je pense qu'elle était en tournée avec Louis Frère et d'autres gens de Bâle, justement, en Belgique. On avait joué ensemble à ce moment-là. Et ça avait bien collé aussi, c'était chouette. Et du coup, un peu plus tard, on était restés en contact. Et un jour, je me souviens qu'elle m'a appelé pour me parler de ça. Me dire, m'expliquer en fait l'histoire du coup avec Fred Friss. Et me dire, et du coup, j'ai beaucoup réfléchi. Et comme collaboration, j'aimerais bien faire un quartet où il y aurait toi à la batterie. Et Annie Leraslan, en fait, elle l'avait croisé à Strasbourg. Ils vivaient à Strasbourg tous les deux à ce moment-là. Du coup, ils s'étaient croisés pas mal dans des trucs, ils s'étaient vus en concert l'un l'autre. Et je sais pas s'ils avaient joué ensemble déjà, mais elle s'était dit, j'aimerais bien essayer aussi avec Anil, je pense que ça collerait.
Ouais.
Et puis du coup, on avait lancé l'idée, enfin elle avait lancé l'idée, on a parlé à Fred qui était partant, et on a trouvé Fred une fois qu'il était en tournée, il passait à Strasbourg, il jouait, je sais plus quel groupe il jouait, mais il jouait à Jazz d'Or, donc ça doit faire 1 an et demi, ou presque 2 ans. Et on a réussi, l'agenda de Fred, c'est quelque chose, donc il fallait arriver à trouver un moment où il soit dispo, où il soit là, blablabla. Et on a réussi à caler une après-midi, même pas quelques heures, où il était à Strasbourg, il était là, du coup on s'est tous retrouvés à Strasbourg pour faire cette session qui était directement la session d'enregistrement du coup.
D'accord. Est-ce qu'il y a une pression particulière à jouer avec un tel musicien ? A-t-il des exigences ? Endosse-t-il la position de leader ? Est-il cool ?
En vrai, il est super cool. Et position de leader, non, pas du tout, il s'en fout.
Oui, je crois.
Lui, il aime bien jouer. Après, il est hyper sollicité de partout. Du coup, je pense qu'il ne joue pas avec tout le monde. Mais là, avec Clara, il y avait un truc qui lui plaisait. Il avait vraiment envie de refaire ça. En fait, il a un truc avec ses élèves. Il y a quelques élèves comme ça avec qui il joue régulièrement. Et pour ça, il est très, très cool. Il n'est pas du tout dans un truc de « je joue qu'avec des stars ou qu'avec un tel. Oui. » Il est assez ouvert pour ça. Et ça s'est hyper bien passé. En fait, il était vraiment crevé, jet lag et tout. Mais il n'avait pas beaucoup de temps. Mais en fait, il est arrivé, il s'est installé, il s'est branché. Nous, on était déjà prêts. On a été le chercher à la gare. Il est arrivé, il s'est branché. En 3 minutes, il était prêt. Et on a pu tout de suite jouer. Après, il est très direct. Du coup, on est prêt, on joue. Et puis après, on parle. Mais quand on est là pour jouer, on joue, quoi.
Ouais.
Et après aussi, du coup, dans les discussions pour le mix, pour le mastering, pour la sortie de l'album aussi, il était hyper cool. Il a proposé lui-même, il a fait le mix lui-même d'ailleurs avec un ami à lui. Il a pris les bandes à Los Angeles, à San Francisco là-bas où il vit. Et il a fait ça avec un ami. Et puis mastering, on a aussi fait avec ce gars-là. Et il a vraiment été impliqué dans
le processus. Il a investi dans le truc.
C'était pas genre ok, j'ai joué, faisant ce que vous voulez. Il était impliqué complètement dans le processus du début à la fin. Ouais.
Ouais, super. Alors la formation est-elle amenée à perdurer ou c'était une rencontre occasionnelle ?
Non, on espère. En fait, on devait jouer à Berlin en juin. Concert qui a été reporté à l'année prochaine. On va pas en parler mille ans, mais du coup on va jouer en juin prochain. Il y a un concert qui est prévu là. Après on cherche. Après le gros souci pour booker ça, c'est l'agenda de Fred Friis qui est déjà hyper rempli. Et du coup voilà, faut choper des moments où il est en Europe, des moments où il est libre et tout ça. Et c'est ça surtout pour l'instant qui posait problème. Et puis voilà, il y a eu ce Covid, du coup. Et l'album, après, on s'est aussi concentré sur le fait de sortir l'album. Maintenant qu'on l'a, on va un peu relancer. De toute façon, pas avant le printemps prochain, parce que lui, il reviendra pas avant le printemps. Ouais. Mais voilà, l'idée, non, c'est quand même de jouer. On sait qu'on va pas jouer, on va pas faire des dizaines de concerts ou de tournées avec ce groupe. Mais l'idée, c'est de le faire perdurer, ouais, tant qu'on peut.
Bon, on va écouter, mais alors, une dernière question à propos du label, ESM. Y a-t-il d'autres sorties de prévues, déjà ?
Alors, il y a eu une troisième sortie, un troisième disque qui vient de sortir, là, de Émilie Schriel, avec Loris Bino, pianiste, et Léquanine, percussion. Et en fait, c'est un trio qu'ils ont créé en novembre dernier. Ils ont joué à un festival. Et ils vont jouer à Densité en octobre. Et en fait, pendant le confinement, ils ont enregistré des pièces. Ils ont enregistré chacun. Quelqu'un a enregistré quelque chose, l'envoyé à un autre, qui a enregistré par-dessus. Donc, ils ont fait un petit jeu comme ça. Et de ça, ils ont sélectionné quelques pièces qu'ils trouvaient qui marchaient vraiment bien. Et en fait, on a décidé d'en faire un disque. Parce que c'est vrai que la musique était vraiment chouette et que c'était chouette qu'elle apparaisse quelque part. Et du coup, c'était une chouette troisième sortie du label. Et pour la suite, on a pas encore de trucs prévus. Déjà, on a sorti ces trois disques-là, qui tout est sorti en confinement, donc on n'a pas encore vraiment eu de concerts et tout ça, et d'occasion de vraiment les montrer, de les vendre, enfin tout ça. Donc y a un peu de vente via le Bandcamp, mais voilà, donc il y a quand même déjà pas mal d'argent investi dans des productions-là. On va voir un peu comment ça prend, comment ça marche. Et on n'a pas, de toute façon, il y sera sans doute, quand on enregistrera Les Amants, moi j'aimerais qu'on fasse un album, et donc pourquoi pas le sortir là. Mais à part ça, voilà, il n'y a rien qui est absolument programmé pour l'instant.
Le sang, c'est le sang.
Oh.
Fred Frith à la guitare, Clara Veil à la voix, Anil Eraslan au violoncelle et Tom Malmandier à la batterie. Tom Malmandier dont on continue à écouter les mots ailés dans les oreilles libres.
Tu joues en solo et j'aimerais savoir si tu abordes cet exercice différemment de ta pratique en groupe. Utilises-tu des techniques ou un matériel spécifique, augmenté comme on dit ?
Alors, c'est assez récent que je joue en solo, enfin que j'explore le solo depuis longtemps dans le travail, mais que je montre sur scène, c'est assez récent, ça doit faire un an et demi que j'ai fait le premier vraiment concert solo à la batterie. Est-ce que j'utilise un matériel spécifique ? En fait, je dirais que pour l'instant, en tout cas le solo que j'ai envie de développer sur l'ensemble de la batterie, j'utilise moins de techniques augmentées, de techniques étendues que ce que j'utilise le reste du temps, en fait, je dirais. J'avais envie de travailler vraiment sur quelque chose plus aux baguettes, beaucoup dans le débit, donc d'être vraiment dans du débit de notes et de coups à la batterie, et d'essayer de créer des vagues comme ça, des vagues d'intensité, et de volume et tout ça, d'énergie. Mais voilà, c'est des explorations, ça fait longtemps que j'ai plus... Je pense que mon dernier solo, c'était il y a un an. Donc voilà, en fait, c'est sur 6 mois, j'en ai fait 5 en concert. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de développer, mais j'aime beaucoup jouer avec des gens. Du coup, si j'ai le choix, si on me propose dans un festival ou quoi de jouer avec quelqu'un ou de jouer en solo, je pense que je choisirais de jouer avec quelqu'un. Parce que j'aime beaucoup ça, mais surtout les rencontres et tout ça, j'aime beaucoup ça. Mais voilà, le solo, c'est quelque chose que, au fur et à mesure de ma vie, j'ai envie de continuer à développer, d'explorer des choses. C'est vachement intéressant sur comment... Enfin, de se retrouver là seul et dire, ok, je suis tout seul, qu'est-ce que je peux raconter et comment je vais tenir un truc.
Ouais, c'est justement ce que je voulais te demander. Qu'est-ce qui est, selon toi, qu'est-ce qui est en jeu pour un musicien dans le fait de jouer seul ?
Ce qui est en jeu, je ne sais pas exactement, mais j'ai l'impression, je dirais que c'est presque au-delà de la musique. Enfin, j'ai l'impression que ce que ça m'apprend de jouer seul en concert, c'est plus des choses humainement que vraiment musicalement. Forcément musicalement aussi, parce qu'il y a comment on tient le truc, comment on tient l'énergie et tout ça, et le fil de ce qu'on raconte. Mais, euh, Mais en fait, ça tient de l'humain vachement. Comment on tient le fil de ce qu'on raconte. Là, en parlant, je me rends compte que je ne suis pas toujours très clair, tout ça. En fait, c'est un peu. Et du coup, je lis ça vachement à ça de comment tenir le crachoir tout seul, qu'est-ce qu'on raconte, surtout comment on le raconte. Parce que ce qu'on raconte finalement, d'une fois à l'autre, on le raconte différemment. Et c'est un peu tout ça qui se mélange, je dirais.
Tom, on a évoqué pas mal de tes nombreuses formations, mais peut-être il y en a une ou plusieurs qu'on n'a pas évoquées et dont tu souhaiterais dire quelques mots.
Ben, il y en a sans doute plusieurs, évidemment sans doute plein que j'oublie. Là, comme ça, on a parlé de pas mal de choses avec des gens que j'aime beaucoup, donc voilà, ça, tous mes projets. Après, sinon, il y a plein de trucs sur mon site. Quand moi-même j'oublie, je vais voir là. Et sinon, il y a deux groupes qui sont encore à une existence très réduite, enfin au tout début de leur existence, mais juste toucher un mot parce que c'est des choses aussi que j'aimerais développer et faire exister plus, même si c'est délocalisé, du coup pas nécessairement simple. Mais il y a un quartet que j'ai créé à Lisbonne avec trois musiciens portugais. Il y a Rodrigo Pinheiro au piano et Hernani Faustino à la contrebasse. Ces deux musiciens qui font partie du Red Trio, qui a pas mal tourné et que moi j'ai découvert il y a pas mal de temps et que j'étais fan tout de suite. Et Luis Vicente, trompettiste. Et du coup, on a joué en quartet là au Creative Source Festival en novembre, je crois c'était. Et puis on a enregistré dans la foulée. Et là, pareil, on est en train de mixer l'album. C'est Rodrigo surtout qui s'occupe de ça, il fait ça très très bien, donc le pianiste. Et on est en train de mixer ça, et vraiment je suis assez content de la musique, et du coup ça aussi j'aimerais, voilà, je vais m'occuper d'essayer de trouver une chouette maison pour nous aider à sortir ça bientôt. Et un trio sur Paris, qui est aussi assez récent, on a joué une fois en concert, et puis on devait rejouer, et puis voilà, les choses se sont aussi pas mises comme on voulait. Pour diverses raisons, il y a eu les grèves à Paris, et puis il y a eu le Covid, puis il y a tout ça. Mais un trio avec David Merlot à la basse électrique et Jean-Sébastien Mariage à la guitare électrique. On a joué au Zorba, c'était il y a un an maintenant. Et vraiment power trio, oui. Très électrique, très noise. Et c'était, ça me fait plaisir d'avoir un groupe comme ça qui envoie la patate et tout. Et j'espère qu'on va pouvoir rejouer bientôt et refaire des trucs, ce groupe-là.
Eh ben merci beaucoup, Tom.
Merci à toi.
T'as vu, on l'a fait.
On l'a fait. Enfin, depuis le temps qu'on parle de cette émission, on l'a fait. Merci beaucoup.
Merci, salut.
Voilà, merci à Tom Malmandier, au Festival Météo et à la Filature de Mulhouse. On termine avec ce quartet Lisbonne, avec ces trois musiciens portugais dont Tom vient de nous parler. La semaine prochaine, attention les oreilles, Jean-François Pauvros, lui-même, sera dans la place. À 17h30, ils seront bien présents eux aussi sur les ondes de Radio Libertaire, les amis Guy et Hubert de Radio Espéranto. Allez, à la semaine prochaine, salut! Thank you.